In fact, we have two phone lines. You can call us collect from Bordeaux Prison and Riviere des Prairies Prison by calling 514-876-3748. We also have a number for non-collect calls. That number is 438-337-8423. Feel free to call that number and leave a message for us with news to share on the show or an audio message for your loved ones inside.
Hey, Black, you're listening to CKUT 90.3 FM.
If you're young at heart, for it's hard you will find to be narrow of mind. If you're young at heart, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh till your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth when you're young at heart? For it's hard you will find to be narrow of mind when you're young at heart. And if you should survive to 105, look at all you derive out of being alive. And here's the best part, you'll have a head start if you are among the very young at heart.
And welcome to Older Women Live on CKUT 90.3 FM in Montreal. We come to you monthly, every second Wednesday of the month, from 6:30 to 7:30 p.m. I'm your co-host, Laura Yaros, and our sister collective members, Marlène Rateau and Rosemary Wally, are co-hosting with me, bringing you a few interesting features this evening. We're starting off with an interview that Marlène and I did with UQAM Professor Gina Teze, co-holder of the UNESCO Chair in Democracy, Global Citizenship, and Transformative Education, otherwise known by its French acronym DCMET. This chair is organizing an international symposium focusing on the theme Dialogue and Emancipation that will take place from October 25th through the 28th in Valparaiso, Chile. The interview's in French, but I'll be providing summaries of the content in English, as well as information at the end about how to attend the symposium for free on Zoom. So here's Marlène to start us off.
Nous sommes heureuses à Hall, à Women Live, de recevoir Madame Gina Thézé, co-titulaire de la chaire UNESCO en démocratie. Gina, veux-tu continuer la présentation, s'il te plaît? Un petit peu compliqué.
Bien sûr, Marlène. D'abord, merci à toi et à vous, à l'équipe, de me recevoir aujourd'hui. Alors, je suis bel et bien co-titulaire de la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire. On dit plus rapidement la chaire UNESCO DCMEI. Je suis professeure à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal.
Alors, Gina, peux-tu nous parler un peu de cette chaire-là? Un petit peu, pour nous mettre en contexte.
La chaire, donc c'est une chaire UNESCO. La chaire UNESCO des CMEI fait partie des 26 chaires UNESCO du Canada, dont 16 chaires UNESCO sont au Québec. Donc le Québec détient la majorité des chaires UNESCO du Canada. Dans le monde, il y a environ 700 chaires UNESCO. Alors les chaires UNESCO constituent un réseau de chaires qui, justement, aura 30 ans bientôt. Au début du mois de novembre, nous allons célébrer le 30e anniversaire du réseau des chaires UNESCO dans le monde. Et donc, c'est un réseau qui est né en 1992. L'UNESCO comprenait trois volets, mais comprend quatre volets maintenant. Le volet éducation, le volet science, le volet culture et maintenant le volet communication. Cela veut dire que les chaires UNESCO, en fait, ont des thématiques qui touchent justement à ces quatre volets de la mission et du mandat de l'UNESCO par l'ONU. Le but de ces chaires, on pourrait dire que c'est de propager dans le monde, on pourrait dire, les valeurs qui sont en premier lieu, la valeur cardinale est la paix. Cependant, pour réaliser cette paix, pour vivre ensemble cette paix et la réaliser ensemble, les autres valeurs, donc la paix repose sur d'autres valeurs telles que la justice sociale, l'équité, la diversité, l'inclusion, les solidarités entre les diverses sociétés du monde. L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur aussi chère à l'UNESCO. Alors, le but des chaires, c'est de promouvoir de la collaboration, le réseautage, le partage des savoirs de manière transsectorielle, transnationale, transculturelle, on pourrait dire. Ce qui veut dire aller au-delà des frontières, les frontières qui nous séparent, mais aller passer à travers les frontières entre Nord et Sud, par exemple, entre les universités et les communautés, entre les divers secteurs de la société, pour mieux, justement, vivre ensemble, construire sur Terre, on pourrait dire. Alors, donc, voilà, la chaire UNESCO, cette chaire UNESCO des CMEI, elle a presque 6 ans maintenant, elle est née en décembre 2016. L'UNESCO nous a donné l'aval, donc a accepté notre demande de chaire UNESCO. Nous avons renouvelé la chaire en 2020, donc ce sont des mandats de 4 ans, de 2016 à 2020. La chaire a été renouvelée de 2020 à 2024. Et donc, nous sommes au milieu du second mandat de la chaire UNESCO des CMEI. La chaire est assise à l'Université du Québec en Outaouais, puisque le titulaire de la chaire est Paul Carr, est professeur donc, à l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO. Et donc, moi, je suis co-titulaire et moi, je suis à l'UQAM. Et donc, la chaire est sise, on pourrait dire, dans les deux universités, l'UQO et l'UQAM. Et nous sommes en collaboration, bien sûr, avec les autres chaires UNESCO du Québec et avec les autres chaires UNESCO du Canada également.
Quand on a une chaire de l'UNESCO, c'est pas à vie. Il faut renouveler, il faut mériter de renouveler. C'est ça?
Ah oui, tout à fait. Par exemple, lors du renouvellement en 2020, nous avons dû fournir d'abord un rapport des 4 années des 4 années du premier mandat, donc un rapport détaillé, bien que nous faisons un rapport annuel, donc chaque année, mais il a fallu faire un rapport du premier mandat et ensuite soumettre une demande de renouvellement qui est envoyée à la Commission canadienne de l'UNESCO, la CC UNESCO, qui étudie la demande de renouvellement. Et si cette demande est agréée, la CC UNESCO envoie, soumet cette demande à l'UNESCO qui doit l'agréer à son tour. Et donc la demande initiale est un long processus et subséquemment la demande de renouvellement également constitue un processus assez long. Mais bon, nous sommes passés au travers de ce processus et puis il faut déjà commencer à se préparer pour notre second renouvellement, donc en 2024. Voilà.
Alors, c'est quoi qui vous a motivé de faire la demande pour devenir chair? Comment saviez-vous comment initier le processus pour devenir chair?
Depuis 2012, en fait, nous collaborons aux travaux et activités de l'UNESCO. Par exemple, de mon côté, j'ai participé donc aux travaux de ce qu'on appelle l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation tous. Et donc, c'est l'équipe à l'UNESCO qui s'occupe justement de tout ce qui concerne la question enseignante. Donc, la formation des enseignants, l'embauche des enseignants, les conditions de travail des enseignants et des enseignantes, la rétention, la capacité de rétention des enseignants et des enseignantes et le renforcement des capacités nationales. Donc, les capacités de tous les pays membres de l'UNESCO en ce qui concerne justement la question enseignante. Donc, depuis 2012, je participe aux travaux de l'UNESCO et en 2014-2015, dans le cadre de mon année sabbatique, j'étais invitée à l'UNESCO où j'ai passé donc ma sabbatique. Et c'est dans le cadre justement de cette sabbatique à l'UNESCO, donc la maison mère de l'UNESCO qui est assise à Paris, que justement les discussions, les travaux, les collaborations là-bas, donc de manière plus étroite avec les différents secteurs de l'UNESCO. Et donc, c'est à partir de cela que l'idée de la chaire UNESCO a germé. Et les trois thèmes interreliés, démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire, font écho non seulement à nos travaux antérieurs, donc de Paul Carr et moi-même, mais aussi font écho aux thèmes émergents de l'UNESCO, notamment la citoyenneté mondiale, la notion de citoyenneté mondiale qui est très chère à l'UNESCO maintenant. Et nous contribuons justement à cette notion de citoyenneté mondiale à laquelle nous ajoutons aussi la dimension écologique donc dans l'éco-citoyenneté mondiale. Mais pour ce, il faut transformer l'éducation. Et pour ce, on a besoin justement de travailler ensemble, de vivre ensemble avec des valeurs de démocratie, notamment d'équité, d'égalité, de justice sociale, de solidarité. Et donc, c'est pourquoi nous voyons démocratie, éco-citoyenneté mondiale et éducation transformatoire, émancipatoire, comme étant finalement des thèmes tressés, tissés, serrés ensemble. Voilà, oui.
C'est plutôt au niveau mondial tout ça. Est-ce que vous êtes en communication avec des professionnels en éducation, disons, je ne sais pas, en Inde ou en Pakistan ou en Chine ou je sais pas, d'autres en Afrique, n'importe où?
Ben justement, l'un des mandats des chaires UNESCO dans le monde entier, c'est d'assurer une sorte de réseautage qui nous amène à collaborer justement avec divers pays et notamment à resserrer les liens entre les nords, on pourrait dire le nord global et le nord et le sud global, à resserrer les liens entre les universités et les communautés, à resserrer les liens entre les divers secteurs des sociétés. Et donc, en ce sens-là, effectivement, nous avons des collaborations et cela se reflète justement dans le symposium, à la fois le symposium de 2021 et aussi le symposium de ce mois-ci, le symposium 2022. Donc, nous collaborons avec des chercheurs et des acteurs sociaux de la société civile, des activistes, des organismes communautaires, etc., dans un grand nombre de pays, notamment en Amérique latine, par exemple au Chili, où le second symposium aura lieu en présence à la fin du mois, mais aussi l'Argentine, le Paraguay, le Pérou, le Brésil, le Mexique. Nous avons aussi des partenaires en Norvège, nous avons aussi des partenaires d'Ariane, au Cameroun par exemple, et nous avons aussi des partenaires en Asie, notamment au Japon, mais aussi en Mongolie, par exemple. Et donc, effectivement, notre mandat, c'est justement de développer de plus en plus un réseau de collaboration, pour mieux partager ensemble les savoirs, mais pour mieux les co-construire, pour mieux construire des savoirs ensemble, des savoirs de paix, des savoirs de citoyenneté, de démocratie, de justice sociale, d'émancipation et de transformation des réalités sociales que nous considérons comme des pathologies sociales, le sexisme, le racisme, l'exclusion sociale, les disparités nord-sud, etc.
And that was Angèle Dubaud and her ensemble La Pietà from a CD of music by Philip Glass called Portrait. And this was from a four-movement piece called Company. This was the first movement in that piece. You're listening to Older Women Live on CKUT 90.3. I'm one of your co-hosts, Laura Yaris, and we're listening to an interview with Professor Gina Teze, Professor of Education at UCAM, who's also the co-holder of the UNESCO Chair in Democracy, Global Citizenship, and Transformative Education. And this is one of the 26 UNESCO chairs in Canada, 16 of which are located in Quebec. There are about 700 UNESCO chairs throughout the world, constituting a network whose purpose is to promote UNESCO values, the main one being peace, which is based on other values such as social justice, equity, diversity, inclusion, solidarity between different societies, and equality between men and women. UNESCO accepted the application for the DC Met Chair, or the Chair in Democracy, Global Citizenship, and Transformative Education in 2016, And each chair mandate is 4 years long, so the mandate was renewed in 2020, and it'll be up for renewal again in 2024. The chair is actually based at two universities, UQO, or the University of Quebec in Outaouais, where the chair holder is Professor Paul Carr, and UQAM, University of Quebec in Montreal, with co-holder Professor Gina Teze, who is our guest today. Both the initial application process and the renewal process are quite long and detailed. The major focus of UNESCO is teaching and teachers, their training, working conditions, skill development, and more. And Professor Teze had been working on these issues since 2012. In 2014, her sabbatical year, she worked at UNESCO headquarters in Paris. And through that work, the idea for creating the chair that we're talking about was born. Recently, UNESCO has also been focusing on global citizenship and what Professor Teze termed eco-citizenship, which encompasses democracy and education, and all three of these ideas, democracy, global citizenship, and transformative education, are woven together. All the various UNESCO chairs around the world network with each other, reinforcing connections between the global North and South, between academia and society at large, and between various sectors of society. Now, the upcoming symposium, which will take place in just a few weeks, will include researchers as well as other movers and shakers, including community groups, activists, and so on, in many countries, in particular Latin America, where the symposium will take place, in Valparaiso, Chile, as I mentioned before. They also have partners in many other countries, such as Norway, Cameroon, Japan, Mongolia, and many others, to develop a network to share and build knowledge around issues related to peace, democracy, emancipation, and the transformation of social realities, or what Professor Teze termed as social pathology, such as sexism, racism, social exclusion, and others. So that's just a little English summary, and we're going to continue now with the interview with Professor Gina Teze.
La chaire a débuté, a été lancée officiellement en mars 2017. Dans ce cadre-là, nous avions organisé des colloques, mais des colloques plutôt à l'échelle locale et aussi régionale. Et en 2020, nous avons organisé donc un premier symposium à l'échelle internationale cette fois. Mais vous savez ce qui est arrivé en 2020. Et donc, le colloque devait avoir lieu en mai 2020 et le 13 mars 2020. Bon, on a appris que tout était confiné. Et donc, ce colloque qui devait avoir lieu en mai 2020 a eu lieu finalement en mai 2021. En ligne complètement, et là, en fait, c'était un mal pour un bien, puisque le fait de tenir le symposium en ligne a décuplé finalement l'audience, l'assistance, puisque plus de 10 000 personnes ont assisté, plusieurs dizaines de pays ont pu assister aux diverses sessions du symposium de 2021, et donc nous espérons de tout cœur que ce sera de même cette année. Sauf que cette année, bon, déconfinement aidant, nous revenons en fait en présence, mais de manière commodale. Il y aura bien les sessions en présence au Chili même, à Valparaiso, au Chili, mais en même temps, ce sera en ligne à travers la plateforme Zoom et aussi les médias sociaux tels que Facebook et YouTube. Et donc, nous combinons maintenant les deux modes en présence et à distance pour cette édition de 2022. Et dans ce cadre-là, pour cette année, nous aurons donc 40 sessions, dont 4 conférences plénières et 36 sessions sous forme de panel. Plus de 125 participantes et participants provenant d'environ 30 pays. 125 personnes provenant d'une trentaine de pays vont participer en tant que conférenciers, conférencières, panélistes au symposium. Il faut dire aussi que le symposium, de même que le symposium 2021, le symposium 2022 se tiendra en 3 langues, le français, en anglais et en espagnol. Et donc, on peut dire que la chaire UNESCO des CME, en fait, nous fonctionnons normalement dans ces 3 langues-là. Mais nous sommes quand même sensibles au fait que cette année 2022, nous avons entamé la décennie international des langues autochtones. Et donc, en ce sens-là, nous aurons aussi des sessions qui portent sur, justement, les langues autochtones, que ce soit les autochtones des Amériques du Nord et aussi du Sud, des Sud. Mais en fait, les langues autochtones du monde entier, nous y sommes sensibles également. Mais bon, nous tenons quand même nos activités en français, en anglais et en espagnol.
En quelque sorte, la pandémie a élargi les horizons de vos organisations, le symposium.
Tout à fait, parce que le symposium tel qu'il a été conçu au départ pour être tenu dans les locaux de l'Université du Québec en Outaouais en 2020, ça devait être donc uniquement en présence avec une centaine de participants qui devaient venir de l'étranger à Gatineau, à l'UQO pour dialoguer ensemble. Eh bien, bon, pandémie aidant, finalement, effectivement, ça nous a permis de plus que décupler non seulement le nombre de participants, mais aussi l'assistance, et puis faciliter aussi le fait de participer, et puisque les gens n'ont plus besoin de se déplacer, tout ce que cela suppose, d'accord. Les réunions, les rencontres Zoom permettent cela, et aussi en même temps sur Facebook. Donc les médias sociaux, Facebook et YouTube, nous permettent de le faire aussi et d'atteindre un plus grand nombre de personnes. En ce sens-là, l'une des valeurs qui nous est chère, c'est justement l'inclusion. En écho aussi aux valeurs de l'UNESCO, l'inclusion est donc effectivement cette valeur est bien servie grâce aux médias sociaux. C'est sûr que les médias sociaux n'ont pas toujours bonne presse, mais je crois qu'on peut compter sur elles justement pour réunir un grand nombre de personnes en un même lieu visuel, en un même temps, hein, de manière synchrone. Et en ce sens-là, le thème de du symposium de cette année,
c'est justement dialogue. Demander le thème.
Oui, c'est le dialogue. Dialogue et émancipation. Eh bien, quoi de mieux pour tenir dialogue ensemble, on pourrait dire, pour faire dialogue ensemble, quoi de mieux que d'avoir justement cette inclusion de personnes provenant de différentes cultures. En fait, on aime bien dire que nous fonctionnons à la chair de manière trans, hein, trans qui veut dire à travers, au-delà de et à travers les frontières culturelles, les frontières linguistiques, les frontières nationales, les frontières sectorielles, les frontières disciplinaires. Donc, nous essayons d'être les plus inclusifs possibles. Et donc, les médias sociaux nous ont permis justement d'élargir ce dialogue en étendant justement notre notion d'inclusion au-delà des frontières, en fait.
Je me demandais, est-ce que tu peux fournir peut-être des exemples concrets? Je ne sais pas si peut-être il y a des projets ou des structures qui se sont mises en place dans divers pays pour améliorer justement le système d'éducation. Je pense notamment comme en Afghanistan actuellement. C'est difficile maintenant pour les filles d'aller à l'école et d'acquérir une sorte d'éducation à cause du régime taliban qui s'est réinstallé il n'y a pas longtemps, là, ou peut-être d'autres pays, ou peut-être il n'y a pas toujours des ressources financières pour avoir un bon système universel d'éducation dans le pays en question. Je me demande alors, est-ce qu'il y a des projets ou des fonds ou des structures qui peuvent être mises en place pour ça?
Oui, il y a beaucoup de problèmes dans l'éducation dans le monde, mais oui, il y a beaucoup aussi qui se fait. Notamment, le 19 septembre dernier, du 16 au 19 septembre dernier, dans les locaux de l'ONU à New York, tout un sommet portant justement sur l'éducation. Et le thème de ce sommet sur l'éducation, qui a réuni finalement tous les membres, les pays membres qui sont au nombre de plus de 180, les pays membres de l'ONU, toutes ces personnes donc, autour de la notion de l'éducation, notamment l'éducation formelle, primaire et secondaire. Et le thème, c'est la nécessité de transformer cette éducation. Et donc, de nombreux pays ont effectué un plaidoyer pour la transformation de l'éducation. Et de nombreux pays aussi ont présenté des projets qui sont déjà en cours de réalisation et qui ont justement pour but de transformer l'éducation. Mais on comprend que pour transformer l'éducation et le thème de la Journée mondiale des enseignants, qui était hier, le 5 octobre, fait écho justement à cette nécessité de transformer l'éducation. Le thème de la Journée mondiale, c'est justement la transformation de l'éducation commence par les enseignants. Vous voyez, donc il y a bien un momentum là, il y a toute une effervescence en matière d'éducation. Et l'éducation des filles, Laura, vous avez bien fait d'amener effectivement ce qui se passe, bien sûr en Afghanistan, mais ailleurs aussi dans le monde, hein, où oui. Les filles sont encore privées d'éducation, soit en raison de mariage et de grossesse précoce, etc. Mais les filles sont les premières victimes aussi de la pandémie. En ce sens-là, puisque en raison de la pandémie, beaucoup d'enfants sont restés, ont été privés de l'éducation, de leur éducation formelle et demeurent privés jusqu'à présent, notamment les filles. Et donc, en ce sens-là, l'égalité entre les genres, la transformation de l'éducation en misant sur l'éducation des filles et des femmes, parce que l'éducation ne s'arrête pas à un certain âge.
Ah oui.
Maintenant, pour nous, dans l'agenda de l'éducation vers 2030, l'UNESCO met l'accent sur l'éducation tout au long de la vie. Et donc, et l'éducation du berceau à la tombe, nous n'arrêtons pas en fait. Nous sommes toujours en processus d'éducation. Et donc, tout à fait, Laura, et pour l'ONU et pour l'UNESCO, la notion de transformer l'éducation est importante. Donc, à travers finalement tout un spectre d'activités, puisque cela va mal dans plusieurs domaines, et donc il faut bien qu'il y ait aussi des actions qui soient prises, et finalement tout azimut en fait.
Mais c'est même pas juste au pays ailleurs, même ici en Amérique du Nord, quand on pense comme aux États-Unis, il y a beaucoup d'écoles dans des quartiers pauvres, ils n'ont même pas assez de livres, tu sais, ils n'ont même pas assez de fournitures. Et il y a parfois il y a les professeurs même fournis de leur propre poche, ils payent pour que les enfants ont comme des stylos et de papier et des choses, les choses physiques, parce qu'ils ont pas les moyens pour les acheter pour eux-mêmes. Mm-hmm. C'est les choses comme ça. Mais oui, même ici à Montréal, ça arrive.
Ah oui, l'éducation est quand même, malheureusement en éducation, on a encore une reproduction des inégalités sociales, mais à l'échelle scolaire, à l'échelle universitaire, et cela c'est... J'aimerais dire un petit mot sur le panel, et aussi sur ma conférence plénière. Je vais donner une conférence plénière le 26, et le même 26, j'anime un panel auquel va participer aussi Marlène. Et le titre du panel, c'est « Dis-nous ta colère, nous nous dirons qui nous sommes ». Et l'idée, c'est de voir la colère des femmes, la colère des femmes, surtout comme étant finalement une dimension fondamentale de ce que nous sommes. Notre colère nous définit d'une certaine manière, même lorsqu'elle est niée, même lorsqu'on la refuse, même lorsqu'on en a peur, elle nous définit. Je m'inspire pour cela de Audre Lorde, la poétesse et militante féministe afro-états-unienne. Audre Lorde nous donne finalement, elle nous dit à nous les femmes noires, mais je pense que ce sont toutes les femmes et même toutes les personnes opprimés, comme dirait Paulo Freire, et avec sa pédagogie des opprimés, Audre Lorde nous dit, mais nous avons un devoir de colère. Alors, donc, c'est en ce sens-là que j'ai réuni quelques femmes chez lesquelles j'identifie une belle colère, dont Marlène Ratto, justement. Et donc, la colère comme une réponse au sexisme, au racisme, au féminicide, par exemple. La colère comme une réponse, finalement, au mot MAUX du monde, à toute cette pathologie sociale. Notre devoir de ne plus nous taire, de ne plus avoir peur, de ne plus nous emmurer, nous bâillonner, nous-mêmes ou par d'autres, dans le silence ou bien dans la résignation. Et la colère, selon Audre Lorde, ce n'est pas la rage. Hein. La colère, ce n'est pas la haine. La colère ne mène pas à la destruction. La colère amène au contraire à la déconstruction de ces maux, de ces pathologies sociales, pour mieux ensemble retisser des liens, reconstruire ensemble un vivre ensemble, dans la paix, la justice sociale, la solidarité. Et donc, c'est l'idée d'une colère qui ne va pas vers la destruction, loin de là. C'est la colère, elle est faite de résistance, donc le courage de dire non aux pathologies sociales, hein, et surtout à notre bâillonnement. Et la colère, c'est aussi de la résilience. La résilience qui est la joie de dire oui. Et donc, dans la colère, il n'y a pas la résistance seulement, il n'y a pas la résilience seulement. Résistance et résilience, finalement, sont les deux faces d'une même médaille. Nous devons résister, hein, en disant non, et nous devons aussi aller ensemble vers la résilience en disant oui, oui à la vie, oui à la joie d'être en vie, oui à la joie de vivre ensemble. Mais prenons acte de notre colère et faisons de notre colère une alliée plutôt qu'une ennemie, et ne nous laissons pas bâillonner par cette connotation péjorative de la colère.
And that jazz piano piece was by the Lorraine Demarais Trio from Lorraine Demarais' recording called Love. And that piece was called Jeu d'ombre. That was an original piece by Lorraine Demarais. In case you've just joined us or have perhaps forgotten, you're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. This is Older Women Live. I'm Laura Yaros, one of your co-hosts. You've been listening to an interview with Professor Gina Teze, who's the co-holder of the UNESCO Chair in Democracy, Global Citizenship, and Transformative Education. And she was talking in this second half of the interview about the upcoming symposium, which will happen on October 25th through the 28th. And she was explaining some of the details about the symposium. So a little summary of what she said. In English, the actual chair activities began in March 2017, starting with local and regional conferences. And in 2020, they tried to organize an international conference, but the pandemic prevented that. So it was postponed to 2021, and it took place online only. And in some ways, it was a blessing because it enabled more people to participate. This year, it is in person and online as well, on Zoom, as well as live streaming on Facebook and on YouTube. There'll be 40 sessions, including 4 plenaries, various panels, and roundtable discussions. There'll be over 125 participants from 30 countries as speakers and panelists. The symposium will take place in 3 languages, French, English, and Spanish, which are the 3 languages of UNESCO. And given that this year begins the decade focusing on indigenous languages, there will be some sessions focusing on those as well. So the pandemic really widened the horizons of the symposium. The original idea was an in-person event only, so the online participation allows for a greater number of people, which is very much in line with one of the core values, which is inclusion. The theme of the symposium is dialogue and emancipation, and they aim to go beyond borders, cultural, linguistic, national, sectorial, and disciplinary borders to be as inclusive as possible. Now, we asked whether there were any concrete projects related to education that were happening, given that there's so many problems related to this field. For example, access to education by girls in countries such as Afghanistan, or just general lack of resources being put into education. In September 2021, at a UN summit on education, which brought together the 280 member countries of the UN, this summit focused on formal education at the primary and secondary levels. Many countries submitted proposals for different projects related to this issue. Now, October 5th was World Teachers' Day, and the theme was The Transformation of Education Begins with Teachers. Girls' education is a major issue, of course, and the pandemic made this even worse, especially for girls. The problems related to education don't exist only in the quote-unquote developing countries, but even here in North America, in the U.S., Canada, even here in Montreal. And issues related to social inequality are a big problem in the education system. Professor Teze will be moderating a plenary session and also a panel. And on the panel, I just found out during the interview that our very own Marlène Rateau will be one of the speakers. The title of that particular session is No Emancipation Without Anger. And Professor Teze explained that women's anger defines us in a certain way, even if we refuse it or we try to deny it. And she cited Audre Lorde, who said that we women have a duty to be angry. So with this in mind, she recruited speakers in whom she saw some kind of significant anger. Anger as an answer to racism, sexism, femicide, and other social pathologies. Our duty is to no longer be afraid or to remain silent. Audre Lorde also said that anger is not about rage or hatred, and it doesn't lead to destruction, but to the deconstruction of these social pathologies to better establish connections and build social justice and solidarity. Anger is the courage to say no to the social pathology such as racism and sexism and so on. And what it is resistance, but it's also resilience. In anger, there is not only resistance, not only resilience, but both. They're two sides of the same coin. So we need to make anger an ally rather than giving in to the pejorative connotations of anger and try to turn away from it. So again, this was Professor Gina Teze, the co-holder of the UNESCO Chair in Democracy, Global Citizenship, and Transformative Education. We'd like to thank her for her time, and also thank our sister collective member Marlène Rateau for setting this up and bringing this important event to our attention. Now, if you'd like to check out the International Symposium, which is running from October 25th through the 28th, you can do that by visiting the event website at the usual www.unesco, that's UNESCO-DCMET, that's DCMET -symposium.com. All sessions will be available online via Zoom, Facebook, Livestream, and YouTube. And you can register for free on the website. Now, you'll need to sign up for each individual session. There'll be 40 sessions, so you may not want to do all of them. There'll be 9 in English, 9 in French, and 18 in Spanish. So depending on what languages you speak, you'll have lots to choose from. And the panel that Professor Teze mentioned, in which Marlène will be speaking, is the one on Wednesday, October 26th at 8:15. And it's called No Emancipation Without Anger. And now we're going to turn the rest of the show over to our sister collective member, Rosemary Wally, who's going to talk a little bit about World Food Day.
Good evening and welcome to Older Women Live on CKUT at 90.3 FM. I'm Rosemary Wally. World Food Day is one of those designated UN days celebrated on the 16th of October every month. It's the responsibility of the Food and Agriculture Organization. And before I retired some years ago, I was a teacher and I always marked the day. You could get special teaching materials from the FAO, which I'd send for. And my adult students would take the pamphlets home to share with their families, showing them how progress was being made and how fewer people were hungry. More couples were using birth control methods. Literacy classes sprang up for women in rural areas of India, for example. And all of this connected to school and community. Those were the heady days. If I were in the classroom today, I'm not sure how enthusiastically I'd be embracing World Food Day 2022. Our world seems to be moving backwards. Hunger has increased by 50 million people from 2020. Over 12% of humanity goes to bed hungry every night, and that's a conservative figure. 45 million kids under the age of 5 years old now suffer extreme malnutrition. Probably we've all seen photographs of kids with pot bellies and dry hair and dry skin. More of the mothers than ever before are hungry. How can they help their kids? This is heartbreaking. We hear about climate change, which increases the frequency and severity of droughts. Rivers are running dry. It makes sense that more people are fighting over dwindling resources. This is true even here in Canada, land of the plenty. On the BBC website a couple of days ago, there was a disturbing story, complete with pictures, showing the death of at least 60,000 salmon in BC that have perished due to drought conditions, with not enough water running in the rivers to ferry them upstream. The pictures are heartbreaking. And here we're only talking about drought. If we include flooding and heat, we have even worse situations. It would be nice if we could blame everything on COVID, or the war in Ukraine, or the vagrancies of climate change, but we can't just throw up our hands. We are in deep trouble, and the United Nations, with its different departments, the Food and Agriculture Organization, UNICEF, the World Food Programme, and the World Health Organization, knows it. Even though wheat and other crops are increasing exponentially, it's not enough. Even farming communities are going hungry. Prices of fertilizer, pesticides, and fuel have greatly increased in the last few years. In the last 10 years, the impact of climate change has started to be felt. Grain is being produced for biofuels. This shocking war in Europe has a ripple effect across the South, countries in Africa and South Africa. This shocking war in Europe has a ripple effect across the South, countries in Africa and South Asia. Look at Pakistan, where a third of the country is underwater. Hunger and sickness are increasing, and no one is there to bail out the victims. There are flash floods and locust plagues. Food insecurity unseen before. Families no longer have access to small plots of land. We have a heavily industrialized food system where few people, really very few people, control the land and the means of production. It's unsustainable, but it's increasing. Agricultural land is selling at a premium all over the world, and the crops and animals on it are going for higher and higher prices. Apologists who buy land far from home are pretending that they're helping the local community. This is nonsense. This is simply not true. They are greedily making money. The locals who work the land are paid very low wages and sometimes are unable to sustain themselves. With inflation everywhere, prices increasing but not salaries, fewer and fewer people can afford to feed their families, and hunger will only increase. War and conflict will also increase. So this World Food Day, Sunday the 16th of October, reflect on the problems that we are in and try, even in your own small way, to talk about them with others, to be aware of what's happening, and to, well, I suppose I must say it, to do everything you can to, well, no, I can't say that. Try as hard as you can to change the situation. I know it's extremely difficult.
Thank you. Welcome to Amandla Radio here at CQT 90.3 FM in Montreal. This week we have an interview with Professor Ibrahim Harvey. He's a political writer and commentator who's published in the Globe and the Mail and Guardian. He's also a broadcaster on TV and radio, formerly a very active trade unionist with COSATU and a sociologist at the Wits University. He is introduced to us by Raj Kanji, our friend in Sackville, New Brunswick. And Raj is going to lead the interview basically around the issues that are brought up in Professor Harvey's book, The Great Pretenders, Race and Class Under ANC Rule. It's a real critique of the ANC